Et oui, nous y sommes en public et en direct, effectivement, et on va parler des procès pour l'histoire, puisque cela fait 20 ans, pratiquement jour pour jour, que s'ouvrait le procès de Maurice Papon. C'était le 8 octobre 1997, 50 ans après les faits. Ce serviteur de l'État, habitué aux honneurs de la République, était, au terme d'un procès long de 6 mois, condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Et pour en parler, deux témoins, deux personnes qui ont travaillé sur ce procès de manière différente. Tout d'abord, Dominique Misica, bonjour. Vous êtes
Bonjour.
historienne, directrice éditoriale des éditions Taillandier, ancienne directrice de la rédaction de la chaîne Histoire et productrice extérieure à France Culture. Et puis à côté de vous se trouve Rhys, bonjour. Vous êtes
Bonjour.
Caricaturiste, directeur de publication de Charlie Hebdo, et vous avez suivi ce procès Papon. Vous en avez tiré un livre d'ailleurs, Un fonctionnaire de Vichy au service de la Shoah, et c'est publié aux éditions Les Échappés Charlie Hebdo. On va écouter la voix de Maurice Papon après son inculpation. C'était le 20 janvier 1983.
Les plaintes dont je suis l'objet s'inscrivent dans une manœuvre politique engagée au moment des élections présidentielles et reprise à la veille des élections municipales, et me recherche dans de prétendues responsabilités administratives anciennes de 40 ans. Elles n'ont pas empêché le général de Gaulle de me conserver pendant 10 ans comme préfet de police, après que, dès 1944, un ministre de l'Intérieur socialiste est estimé qu'il n'y avait rien à me reprocher.
La voix de Maurice Papon, une voix pleine d'assurance, vous vous en souvenez, Rhys ?
Oui, je dirais presque comme si c'était hier. Et voilà, Papon égal à lui-même, toujours sûr de lui, ne trébuchant jamais sur les mots et ne doutant jamais de ce qu'il a fait. Voilà.
Pourquoi aviez-vous décidé de suivre le procès Papon ? Vous aviez suivi également le procès d'un milicien, Paul Touvier. Pourquoi avoir décidé, en tant que dessinateur, de suivre ces deux procès ?
D'abord, par intérêt personnel pour cette période de l'histoire, parce que ces procès aussi, c'est une occasion assez extraordinaire de voir défiler des témoins qu'on voit rarement témoigner, des témoins de cette époque. Certains d'ailleurs, beaucoup ont disparu. Et puis c'est aussi, moi j'aime, c'est aussi l'idée de raconter aussi un procès. Qu'est-ce que c'est qu'un procès ? Il y a deux choses, il y a à la fois le fond, l'affaire, et puis aussi faire défiler sous les yeux du lecteur ce qu'est un procès, en fait. Voilà.
Et aujourd'hui, on voit, Dominique Misica, que c'est un véritable enjeu pour parvenir donc à rendre compte d'un procès, ceux qu'on peut filmer, ceux qu'on ne peut pas filmer.
En principe, les caméras sont interdites dans le prétoire. Mais grâce à la loi de Robert Badinter de 1985, les procès à portée historique, sociologique et événementielle ont été enregistrés, comme le procès Barbie, Touvier, Papon, le procès AZF, le procès d'un génocide rwandais, d'un responsable de la junte militaire chilienne, le procès du sang contaminé ont été enregistrés. Et ce sont autant d'archives audiovisuelles qui donnent un témoignage, qui restitue ce qui s'est déroulé dans une salle d'audience où seul assiste au procès, évidemment, la cour, les jurys, les jurés, les avocats, les témoins, le public, mais c'est limité. Comment rend-on la justice aujourd'hui en France ? Comment l'a-t-on rendue il y a 20 ans pour ces procès ? Eh bien, grâce à ces archives audiovisuelles, on peut visionner ces images.
Et le fait de visionner les images du procès Papon, qui a eu lieu il y a 20 ans, qu'est-ce que ce procès peut nous apprendre ? Qu'est-ce qu'il nous a appris, Dominique Misica ?
Ah, c'est absolument fascinant, et c'est ce que j'ai retrouvé dans les dessins de Rhys, c'est une immersion dans la salle d'audience. On est au plus près de l'accusé, au plus près des avocats, au plus près des témoins. Et la voix, et j'en ai fait 25 heures pour France Culture en 2005, comme on en a diffusé 80 heures sur la chaîne Histoire cette même année, on entend à la fois l'arrogance de Papon, les blancs, les éclats de voix, les effets de manche des avocats, plus ou moins réussis, la lecture fastidieuse de l'acte d'accusation, le verdict, les silences, les flottements aussi, le côté fastidieux d'un procès, et tout ça, on l'entend et c'est extrêmement important. Et puis on entend les historiens aussi qui déposent, Jean-Pierre Azéma, Robert Paxton, qui viennent éclairer la cour et le public de ce qu'était l'occupation. Une archive audiovisuelle, c'est extrêmement précieux. C'est une captation à plat, il ne faut pas se tromper. Ça n'est pas un film, c'est une captation à plat, les caméras sont fixes, pas de travelling, pas de plan de coupe. Vaguement des plans du public, mais très rarement. Et ça donne un matériau absolument extraordinaire.
Et en découvrant ce que vous avez dessiné pendant ce procès, Rhys, on se rend compte également que Papon a été jugé il y a 20 ans, mais il a été jugé il y a 1000 ans, c'est-à-dire à une époque où la représentation qu'on avait de la Shoah, des victimes, de la résistance n'était pas la même. On voit l'arrogance de Papon, c'est vraiment pas un terme convenu, elle saute aux yeux, l'arrogance aussi de certains anciens ministres gaullistes, et puis des partis civils qui sont souvent en situation d'être quasiment mis en accusation, avec une forme de timidité sociale également.
Oui, c'est vrai que quand on aborde le procès Papon, on a en tête le schéma qui est celui de la Shoah, un fonctionnaire de Vichy qui met les moyens dont il dispose au service d'une répression antisémite. Ça, c'est ce qu'on voit au début, mais c'est vrai que Papon, c'est quand on dit le procès Papon, c'est pas seulement le procès de Maurice Papon de 1942-1944. En fait, c'était le procès de presque la carrière de Maurice Papon, puisqu'a été abordé aussi son rôle pendant la guerre d'Algérie avec les noyades de 61. On sentait aussi que c'était un procès, j'ai pas dit un peu règlement de compte, mais qui faisait payer à Papon bien plus que ce qu'il avait fait de 42 à 44. Donc, et il y avait derrière ça, je vais pas dire pas une dimension sociale, je sais pas comment dire ça, mais
une dimension symbolique peut-être.
Oui, une dimension symbolique. C'était aussi un certain type de d'homme d'État, une certaine manière de diriger la France pendant des années, qui était un peu mise dans le box des accusés, au-delà de ce qui s'était passé de 42 à 44.
Et de l'autre côté, ces partis civils, on voit bien souvent que ces juifs qui ont été raflés, notamment à côté de Bordeaux à Mériadec, étaient bien souvent de petits artisans. Des gens qui, pour les survivants, ont du mal finalement à soutenir le regard de cet homme qui est extrêmement dominateur, qui est plein de sa superbe.
C'est vrai que c'est un aspect qu'on voyait pas au début, mais que j'ai un peu découvert, c'est que c'est vrai que la plupart des victimes venaient de milieux très modestes. C'était des petits artisans, des brocanteurs, des rempailleurs de chaises qui se sont retrouvés déportés et qui, 40 ans ou 50 ans après, dans ce procès, leurs enfants se trouvaient en face d'un homme d'État. Et c'était quand même un spectacle assez incroyable de voir des petites gens demander la justice à des puissants, qui avaient envoyé dans le box des accusés des anciens ministres et qui obligeaient des premiers ministres à défiler pour se justifier devant la cour. Donc c'est un aspect de la justice qui est assez extraordinaire, quoi. C'est la justice est au service de tous.
Avec malgré tout une image Dominique Missica, on voit cet homme qui est accusé, Maurice Papon, on voit que c'est un vieil homme, et on se dit, et d'ailleurs il va en jouer, son avocat Maître Varro en joue également, dire voilà, vous êtes en train de tuer cet homme, est-ce qu'il n'y a pas dans l'image aussi quelque chose qui pourrait le disculper, alors que finalement c'est le même homme que celui qui a signé des actes d'arianisation, celui qui a permis des rafles.
Oui, mais la différence entre ce qui est saisi au moment du procès par un observateur comme Rhys, par la presse, par les comptes rendus d'audience qui se déroulent sur les marches du palais, et puis 20 ans après, quand on regarde les images avec le recul, le regard d'historien ou de juriste, on ne voit pas la même chose. L'entrée pour comprendre le procès Papon est très différente à 20 ans de distance, comme elle est différente à 50 ans des faits. Ce sont des questions qu'il faut se poser au moment où se déroule le procès ou au moment où on le regarde aujourd'hui. Notre questionnement n'est pas le même.
Alors qu'est-ce qui a changé justement, puisque vous avez suivi ça sur 20 ans, qu'est-ce qui est le plus frappant lorsque vous vous projetez en arrière et que vous voyez la manière dont on parle de ce procès?
En 97, au moment où le procès s'ouvre et qu'il va durer, il faut se souvenir quand même d'un point très précis, c'est que quand le procès s'ouvre, on ne sait pas qu'il va durer près de 6 mois, avec des péripéties judiciaires, la maladie de Papon, la mort de son épouse, sa mise en liberté. Tout ça, cette émotion au moment du procès, cette tension, évidemment, quand on regarde les images du procès, parce que quand on est dans la salle d'audience, le brouhaha médiatique qui se passe à l'extérieur n'est pas donné. On ne sait pas dans quel contexte il se place.
Alors ça, c'est justement quelque chose de frappant lorsqu'on regarde la bande dessinée que vous avez tirée de ce procès Papon, Rhys. On voit par exemple que dans le bruit médiatique, Arnaud Klarsfeld, à l'extérieur du prétoire, était extrêmement présent avec ses patins à roulettes, avec ses déclarations assez provocantes. À l'intérieur du prétoire, c'est une toute autre hiérarchie qui a lieu.
C'est sûr que moi, j'ai pas tellement voulu parasiter cette restitution du procès Papon par, comme vous dites, le bruit médiatique, parce que ça déforme beaucoup trop les choses. Quand on est à l'intérieur du procès, comme d'ailleurs de n'importe quel autre procès, on voit pas du tout la même chose. D'abord, c'est beaucoup plus serein. D'abord, il y a un président qui dirige, qui a la police de l'audience, donc les gens ne se comportent pas de la même manière dans le prétoire que dehors. Donc il y a deux procès. Il y a le procès médiatique, puis il y a le vrai procès. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le vrai procès. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Effectivement, c'est un peu différent. Vous citiez Arnaud Klarsfeld. Bon, ben, il y avait aussi d'autres avocats qui sont intervenus. Il y a d'autres acteurs. C'était beaucoup plus pluriel, beaucoup plus divers, beaucoup plus riche. Et ça se résumait pas à deux ou trois figures sur lesquelles les caméras se jetaient à la sortie des audiences.
Et puis, ce procès aussi, quand vous devez le présenter, Dominique Missica, il est autre chose que le procès d'un homme. Il est aussi le procès d'un système. C'est d'ailleurs répété au moment de ce procès. On explique que la notion même de crime contre l'humanité est une notion qui est évidemment collective.
C'est une responsabilité individuelle que l'on cherche. Ce procès, c'est la responsabilité individuelle d'un homme et non pas le procès d'un régime. C'est la grande différence, et d'où la difficulté de faire coïncider vérité judiciaire et vérité historique. Il faut montrer les preuves de la culpabilité de Maurice Papon, pas celle du régime de Vichy. C'est ça qui est le plus difficile. Mais pour revenir à ce qui se passe dans l'audience, c'est vrai que, par exemple, la dissension au sein des parties civiles se voit pendant les
débats. C'est-à-dire quelle dissension ?
C'est-à-dire quel est le degré de responsabilité et de complicité de Maurice Papon dans la déportation des 12 convois qui lui sont reprochés.
Avec une question qui là aussi est posée, dans quelle mesure savait-il que ces Juifs allaient à la mort ?
C'est une question justement que la justice doit éclairer avec des arguments avancés à la fois par des historiens qui disent, en 42, que pouvait-il savoir ? Et il y a sa réponse, celle des historiens, celle qui sont... Alors, autre question, est-ce que les historiens sont-ils dans le prétoire à leur place ? Est-ce qu'ils sont... On leur demande de jurer, de dire toute la vérité. Un historien ne peut pas dire la vérité. Donc, toutes ces questions qui sont rapidement évoquées dans des comptes rendus de presse, le fait de regarder, de visionner ces archives du procès permettent vraiment de rentrer en profondeur dans le procès.
Eh bien oui, parce que Rhys, vous qui n'êtes pas historien mais dessinateur de presse, vous avez croqué ces différents historiens qui vont donc se succéder dans le prétoire pour dire si oui ou non Papon a une responsabilité dans la mort de ces Juifs, et on voit que les réponses sont très hétérogènes.
Ben, c'est un peu l'ambiguïté de ce procès, c'est un procès un peu bancal, parce qu'à la fois on dit c'est un procès pour l'histoire, donc effectivement on a une approche historique, on fait venir les historiens, mais on oublie juste que c'est un procès pénal. Et que moi, ce qui m'étonnait, c'est que durant ces 6 mois, le livre qui était sur le bureau des avocats ou des magistrats, c'était le code pénal. Et il a été rarement ouvert. Par contre, on a ouvert beaucoup de livres d'histoire, et ils ont voulu démontrer la responsabilité de Papon sur le plan historique, alors qu'en fait, sur le plan pénal, elle était très facile à identifier, et on aboutit quand même à un résultat.
Pourquoi très facile ?
C'est-à-dire que vous avez la notion de complicité dans le code pénal, c'est très sévère. Hein. Il suffit de donner quelques moyens et vous êtes complice. Ça va très vite. Et là, curieusement, quand on regarde le verdict, il n'a pas été condamné pour complicité d'assassinat. Il a été condamné pour complicité d'arrestation illégale, pour complicité de séquestration illégale, mais il n'a pas été condamné pour complicité d'assassinat. Parce que je pense que les jurés ont été peut-être un peu trop impressionnés par les historiens. Ils ont voulu être très prudents sur la question de qu'est-ce qu'on savait de ce qui se passait au bout de ce processus. Et donc, n'ont pas osé, en fait, utiliser, par exemple, quelque chose qui existe dans la procédure pénale, qui est l'intime conviction. Avec l'intime conviction, on a le droit de condamner comme on veut, quoi.
Dominique Missiga.
Une fois de plus, vérité judiciaire et vérité historique ne sont pas les mêmes. L'histoire n'est pas là pour dire le droit, et le droit ne dit pas l'histoire. Donc, on est allé jusqu'au bout. L'essentiel était que ce procès ait lieu, se déroule. Ce n'était pas une juridiction d'exception. Maurice Papon a bénéficié de tous les droits d'un accusé, le droit de la défense. Et de ce point de vue-là, c'est un procès exemplaire.
Et le fait que ce procès ait été filmé aujourd'hui dans la mémoire française, qu'est-ce que ça apporte, sachant que d'autres procès, par exemple le procès du frère de Mohamed Merah qui a lieu en ce moment, lui, on a décidé de ne pas le filmer.
Il y a une peur, on confond de l'idée de filmer en direct un procès. Alors ça, évidemment, on ne peut qu'être choqué par une justice spectacle qui se donnerait en direct comme aux États-Unis. Bon, ça paraît évidence. Ensuite, la loi de Badinter a été quelque part trahie puisque son idée était qu'il fallait enregistrer des procès à titre d'archives audiovisuelles pour dire à comment la justice est rendue dans un pays à un moment donné. De ce point de vue-là, le procès du frère de Mohamed Merah, c'est un procès qui nous dit comment on essaie de juger le terrorisme. Ça pourrait être une pièce à conserver, une archive audiovisuelle, tout simplement.
Vous y êtes en ce moment au procès Merah-Riss. Oui. Comment ça se déroule? Qu'est-ce qu'il vous apprend finalement, ce procès Merah?
Ben, ce procès Merah, il est un peu bancal, puisqu'on a dans le box des accusés deux individus qui n'ont matériellement pas commis d'actes criminels proprement dit, mais on les accuse d'avoir donné des moyens. Voilà. Donc c'est toute l'ambiguïté de ce procès. L'accusé, ben, il est mort. Et donc en fait, ce qu'on voit se dérouler sous nos yeux, c'est un peu un contexte. C'est comment tout ça s'est mis en place. Et c'est de ce point de vue-là que ce procès est très intéressant, parce que vraiment on entre dans le pourquoi du comment les choses se sont passées, comment un individu en est arrivé à commettre ces choses-là. Donc c'est... Je veux dire, sociologiquement ou historiquement, ça a quand même un intérêt, quelle que soit l'issue du verdict.
On va continuer à évoquer l'histoire et les procès, mais cette fois-ci, puisque nous venons d'évoquer le procès Papon, un procès pour l'histoire, on parlera de l'histoire en procès. On sera toujours en compagnie de vous, Dominique Missiga. Vous avez notamment publié L'institutrice d'Izieux et Thérèse, le grand amour caché de Léon Blum, de Riss, qui vient de republier le procès Papon aux éditions Les Échappées Charlie Hebdo. Et nous serons rejoints par un autre historien, Patrice Guénifet, pour évoquer toutes les polémiques sur la responsabilité d'un certain nombre de personnages dans l'histoire de France, dans l'esclavage, dans la traite des Noirs, par exemple, Napoléon, Colbert. On en parlera dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture.